L'interview. Monsieur Yves Dacor, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, bienvenue sur les ondes Express FM.
Donc Yves Dacor, qui m'a contacté, c'est moi. Je suis en interview. بعد لحظات العديد من المنظمات الدولية قاعدة تخدم في خدمة كبيرة خاصة في خضم الأزمة الصحية اللي تعيش فيها دول العالم الكل ومن أهمهم أقدم منظمة إنسانية في التاريخ المعاصر. نحكيه على الهيئة الدولية للصليب الأحمر. فيش يتمثل دورة في مقاومة تفشي الوباء هذه وخاصة حماية الفئات الضعيفة في مختلف دول العالم. الميزانية المرصودة لمختلف تمثيليات الهيئة حول العالم. هذاك علاش معنا توتسويت السيد إيف داكور المدير العام للهيئة الدولية للصليب الأحمر.
الانترفيو. Monsieur Yves Dacor, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, bienvenue sur les ondes Express FM.
Merci beaucoup.
Alors monsieur Dacor, pour commencer, comment vous êtes adapté à cette situation inédite ?
C'est une situation qui, c'est rare, qui à la fois nous frappe comme organisation, comme société, comme personne aussi. Et en fait, on doit être capable d'aligner les trois. C'est-à-dire qu'en termes d'individu, ben, j'ai dû faire comme tout le monde. Ça veut dire prendre de la distance avec les gens. Et en fait, dans ma maison, en même temps, évidemment, mon organisation s'est adaptée dramatiquement par rapport à d'abord faire en sorte que tout le personnel soit sain et sauf avec leur famille, mais aussi pouvoir commencer à répondre. Et nous, on a totalement réorienté nos programmes, ceux du CICR, mais aussi ceux des Croix-Rouges nationales dans le monde entier.
Alors, quel est votre premier champ d'action pour faire face à cette crise sanitaire internationale ? Et est-ce que vous avez préparé une stratégie claire à l'échelle internationale en collaboration avec les différentes représentations de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, pour participer à la protection des classes sociales les plus vulnérables ou aussi des pays où ces classes sociales sont fortement présentes ?
Bon, alors notre je dirais concentration principale, elle est évidemment par rapport aux populations qui ont justement sont les plus vulnérables, qui ont soit de la difficulté à accéder aux soins de santé, soit simplement qui sont dans des situations dans des pays où il n'y a pas de soins de santé, ou mettons où le gouvernement local n'est pas en position d'amener des services de base. Et c'est là qu'on concentre notre responsabilité quand on parle de la Croix-Rouge internationale. Quand on parle des Croix-Rouges nationales, elles vont plutôt concentrer leurs responsabilités en soutien aux populations, mais aussi au gouvernement dans leur rôle d'auxiliaire. Et on se partage comme ça. Ça tombe bien que vous me parlez aujourd'hui, parce que dans quelques heures, on va justement proposer aux États et à la société en fait notre nouveau plan collectif Croix-Rouge, Croissant-Rouge dans le monde entier, en faisant un premier effort important, sachant aussi, et c'est peut-être le point le plus important, qu'on est de plus en plus conscient que la crise du coronavirus, ou dit du Covid-19, va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on imagine, malheureusement. Et je crois qu'il faut qu'on se prépare pour une phase d'urgence dans laquelle on est maintenant en train d'entrer, et puis une phase qui va durer plus longtemps.
Alors, si on parle un petit peu sur le plan financier, vous avez parlé de différentes représentations en fait du comité un petit peu partout dans le monde. Sur le plan financier, est-ce que vous avez prévu une augmentation des enveloppes allouées à vos différents bureaux dans le monde, ou comment ça se passe, si vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Alors volontiers, je pense que c'est un enjeu pour toutes les organisations et pas seulement pour la Croix-Rouge. Dans le cas de la Croix-Rouge, on va demander aujourd'hui en fait de 800 millions d'euros qui vont être répartis principalement en à peu près 600 millions pour les Croix-Rouges nationales dans le monde entier et leur fédération, et 200 millions pour le CICR, mon organisation spécifiquement. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est au fond à pouvoir amener immédiatement faire des propositions de nouvelles ressources pour pouvoir soutenir en fait les populations les plus affectées. Je pense en particulier dans les pays qui sont en grande difficulté. C'est ce qu'on va faire d'abord. Et puis évidemment, le deuxième élément pour nous, c'est on a dû rediriger déjà beaucoup de nos programmes. On a donc arrêté un certain nombre de programmes qu'on faisait pour les rediriger par rapport à tout ce qui est le Covid-19. Je prends un exemple. Au CICR, on s'occupe particulièrement des questions des personnes qui sont déplacées à l'intérieur des pays. Et on voit bien qu'il y a des enjeux majeurs pour eux en termes de santé. Donc là, il y a un gros effort qui est fait de ce côté-là. Il y a un gros effort qui est fait aussi pour, par exemple, on oublie toujours, mais dans le monde entier, il y a des prisonniers qui sont eux-mêmes dans des situations extrêmement difficiles. Le CICR s'occupe aussi d'une partie d'entre eux. Donc on va s'occuper de ces personnes-là. Et on va travailler avec les Croix-Rouges et Croissant-Rouge dans le monde entier sur les systèmes de santé pour pouvoir soit les soutenir, soit parfois se substituer quand c'est pas possible.
Alors justement, vous avez parlé des prisonniers. Plusieurs prisonniers, dont beaucoup de pays du monde, vivent dans des conditions vraiment lamentables, et spécifiquement les prisonniers politiques, on en parle beaucoup aujourd'hui. L'Organisation française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique a appelé, d'ailleurs depuis quelques jours, le Comité international de la Croix-Rouge et les Nations unies à intervenir pour libérer les prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines, mais aussi on parle des prisonniers palestiniens
prisonniers en Israël, des prisonniers politiques en Égypte, en Arabie Saoudite, en Birmanie, dans beaucoup d'autres pays. Est-ce que vous allez intervenir pour libérer ces prisonniers politiques dans le cadre de cette crise sanitaire planétaire, pour leur sauver la vie, ou comment ça va se passer exactement? Surtout que la négligence médicale est vraiment courante dans ces prisons, et surtout en ce qui concerne les prisonniers politiques.
Alors, il faut partir du principe que, effectivement, la population des prisonniers en général, et pas que les prisonniers politiques, je pense les prisonniers en général, sont en situation extrêmement délicate. C'est vrai. Aujourd'hui, on est dans la plupart des pays dans des configurations où les détenus sont dans des situations où il y a trop de monde, où il y a très peu de place à l'intérieur. Donc, on imagine la pression qui existe déjà physiquement sur les gens. Et puis, il y a des systèmes de santé qui souvent ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Donc, oui, nous sommes en discussion. Nous visitons beaucoup de prisonniers dans le monde. Nous visitons entre 800 000 à 900 000 prisonniers dans le monde entier. Et oui, nous sommes en discussion avec les États qui détiennent ces prisonniers. C'est aux États de faire des choix maintenant. C'est pas nous ne pouvons pas nous les libérer, mais nous pouvons évidemment faire en sorte de pouvoir trouver les solutions les plus adéquates. Et les solutions adéquates, elles commencent d'abord par un travail de base. Il faut absolument de la place pour les détenus. Il faut un travail d'hygiène. Il faut un travail de soutien. Et si les autorités n'arrivent pas à le faire, alors oui, elles doivent se poser la question de la libération. Absolument.
On demande à tout le monde de se confiner alors qu'il y a des gens qui n'ont pas d'abri pour pouvoir le faire. Comment les protéger et les aider à faire face au virus? Là, je parle spécifiquement des SDF, des sans-abri un petit peu partout dans le monde.
Je pense que c'est un des points les plus importants, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on est tous égaux devant le virus, quel qu'on soit. Par contre, on n'est pas égaux devant, au fond, les mesures de confinement aujourd'hui. Et on voit bien que les mesures de confinement créent en fait des inégalités assez importantes, à la fois sur l'accès à la santé, mais aussi effectivement sur le fait que si on n'a pas de toit ou si on n'a pas d'endroit pour s'abriter, on est très en danger. Ça, c'est vraiment une de nos priorités au niveau des Croix-Rouges nationales, de s'occuper de ces personnes-là, de faire en sorte à qu'elles aient accès aussi, si c'est possible, à la santé. C'est important que ce soit testées si elles sont malades et soit de pouvoir les accompagner dans ce cadre-là. C'est un élément absolument clé. Et nous, on va devoir travailler avec les États pour que leur réponse, justement, soit plus intelligible et plus intelligente et plus inclusive. Parce qu'on est dans une situation où maintenant on vit une période de crise, mais c'est clair pour moi que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, on va vivre plusieurs moments de cette crise-là. Et il faut absolument qu'au-delà maintenant de cette période d'urgence, on intègre et on soit beaucoup plus attentif par rapport aux populations très vulnérables. Et ça, ça va être un élément clé de notre travail à nous dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent.
Est-ce que vous avez l'impression que les États ne sont pas vraiment focalisés sur ces classes vulnérables, telles que par exemple les SDF, les sans-abri?
Les États sont, la plupart d'entre eux, déjà un peu surpris pour être ou pris de court parfois par la crise aujourd'hui du Covid-19, franchement, et essayent de parer au plus pressé. On voit bien qu'ils cherchent à trouver les meilleures techniques et tactiques pour pouvoir faire en sorte de maîtriser un tout petit peu l'expansion du virus. Pour l'instant, franchement, ça reste très compliqué. Et une des solutions qui est appliquée, c'est effectivement le fait qu'on confine des populations entières. Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'États qui simplement n'ont pas eu le temps, pas l'envie, pas pu s'occuper, au fond, des gens qui n'entrent pas dans le cadre classique de la société. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui avec Covid-19, c'est que ça met évidemment en valeur et ça met plus de pression sur les inégalités sociales qui sont existantes. Et on le voit dans beaucoup de pays, dans les pays européens, on voit ça aux États-Unis, mais évidemment dans beaucoup de pays aussi en Afrique ou au Moyen-Orient.
Alors, selon les derniers chiffres des Nations Unies, il existe 30 millions de réfugiés dans le monde. La plupart d'entre eux vivent dans des conditions précaires qui peuvent favoriser la transmission du coronavirus, d'où un impact dévastateur. Êtes-vous préparé pour ça, surtout que vous gérez un grand nombre de camps de réfugiés? Et par la même occasion, j'aimerais bien savoir quel est le nombre de camps que la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge gère.
Alors, en général, la question des migrants, mais aussi des déplacés internes, est un élément clé pour moi. Ça va être parmi les populations, c'est déjà les populations les plus vulnérables. Et évidemment, elles ne vont pas être en situation, elles, de pouvoir se protéger facilement. Un, parce qu'elles n'ont pas de maison, ou alors parce qu'elles sont dans des camps, voire dans des écoles, voire dans des abris, très serrés, avec très, très peu d'hygiène. Donc, effectivement, c'est les populations qui sont à risque. Nous, la Croix-Rouge générale, on travaille en très étroite collaboration avec les Nations Unies. C'est plutôt les Nations Unies qui, en général, gèrent les camps en tant que tels. Et nous faisons du soutien qui peut être soit du soutien de protection, soit du soutien de santé. Là, vous avez raison de dire, c'est des populations qui nécessitent absolument un soutien. On parle de 30 millions de réfugiés, mais si vous regardez le nombre de déplacés internes, on parle de quasiment 60 millions de gens. Donc là, ça va être un très, très gros effort qu'on va devoir faire ensemble dans les semaines qui viennent.
Donc, par rapport aux chiffres exacts, est-ce que c'est les Nations Unies qui gèrent le tout et vous êtes là pour les soutenir? Ou est-ce que vous avez une partie de ces camps totalement gérés par la Croix-Rouge?
Non, la très grande majorité des camps sont gérés par les Nations Unies, par en fait le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est vraiment leur travail. Et en général, les Croix-Rouges locales sont en soutien dans ce cadre-là, dans ce cadre spécifique. Et nous, la Croix-Rouge internationale, on va intervenir plutôt sur les populations, sur les communautés qui en fait accueillent des déplacés. Nous, on va plutôt se concentrer sur la question des déplacés, qui est souvent trop oubliée. On se concentre sur les camps, c'est important, c'est juste, mais on oublie aussi les populations les communautés qui doivent accueillir beaucoup de déplacés, je pense. Par exemple, en Syrie, aujourd'hui, vous avez encore des millions de déplacés et c'est très important de pouvoir intervenir auprès de ces populations-là et auprès des communautés qui les accueillent.
Donc, pour conclure, juste par rapport à cette question, on ne peut pas parler de dispositions spécifiques pour cette classe ou cette communauté spécialement ou pas?
Si, on va devoir... Au contraire, je pense qu'on va devoir mettre un accent très fort là-dessus. Et ça va commencer par effectivement un travail avec les Nations Unies sur les camps de réfugiés. Là, il y a un énorme travail à faire de distanciation sociale, de protection de la santé qui doit être fait maintenant. Et puis, sinon, par rapport aux déplacés, oui, il faut, c'est vraiment, ça fait partie de nos priorités. Et quand on va parler aujourd'hui et demander de l'argent et du soutien auprès des gouvernements et du public, un de nos accents va être très clairement sur les déplacés.
Votre travail, il est basé essentiellement, enfin, vous allez nous décrire un petit peu comment ça se passe, mais d'après nos informations, il est basé essentiellement sur le travail des volontaires, des bénévoles un petit peu partout dans le monde. Donc, y a-t-il un grand besoin en volontaires aujourd'hui avec cette crise sanitaire planétaire?
Oui, il y a un besoin qui va être plutôt en augmentation, mais je pense d'abord à deux phases. La première phase, ça va être par rapport au personnel de santé. On voit très bien que le personnel de santé dans les pays qui sont affectés par le Covid-19, c'est un personnel qui est très vite en ligne, en première ligne, et qui lui-même est atteint par la question du Covid-19, qui doit évidemment, quand ils sont atteints, doit se protéger. Et donc, on voit un personnel qui est très fatigué, qui est très sous pression. Donc, je pense dans les pays, dans la plupart des pays, on va voir d'abord un premier effort à faire. On va devoir mobiliser des gens, des professionnels, mais aussi des volontaires pour donner un premier coup de main ou un deuxième coup de main à tout le système de santé. Et puis, vous avez raison, nous, on voit déjà aujourd'hui qu'on a un certain nombre de volontaires qui sont aussi affectés par le Covid-19 et donc on va devoir aller chercher d'autres volontaires qui sont prêts à venir aider. Et moi, je pense surtout que dans les semaines qui viennent, on va pas avoir seulement un enjeu de santé publique, mais on va avoir un enjeu social. Je pense que à cause de l'impact économique évidemment et social sur la crise, on va devoir avoir des programmes de soutien aux gens qui vont devoir augmenter. Donc nous, on va devoir aller chercher au niveau de chaque Croix-Rouge et Croissant-Rouge locaux, on va devoir aller chercher plus de volontaires pour aider les communautés. Ça, j'ai aucun doute là-dessus.
Un petit message si vous avez aux équipes de la Croissant-Rouge ou du Croissant-Rouge tunisien.
Bah, continuez à faire votre travail extraordinaire, quoi. Ça va, les semaines qui viennent vont être encore plus difficiles. Ça a été vraiment un travail magnifique jusqu'à maintenant. Demain, ça va être encore plus. Et il y a un maître mot, un seul, c'est solidarité, vraiment. On est dans une période où il faut qu'on soit solidaires les uns les autres, quels que soient nos statuts, quel que soit notre professionnalisme, nos contrats, nos religions, nos différents éléments, la solidarité va être absolument essentielle.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Rémi. Écomag.